Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Mais qu'est-ce que je fous là? Ah, mais c'est pas vrai ça. On est au moins 12 là-dedans et c'est sur moi que ça tombe. L'animal convient-il?
Ah, très bien.
Quand je pense qu'il y a deux jours, j'étais tranquillement dans la rade de Brest à coincer la mule.
Comment le désirez-vous? Grillé ou thermidor, chérie?
Thermidor?
Très bien, thermidor.
Et allez, ébouillanté, je vais finir.
Évidemment, c'est là qu'ils sont le meilleur, hein, qui gardent toutes leurs qualités gustatives.
Un homard à l'américaine à la 11.
Vous le remettez au four, 10 minutes, puis vous le faites flamber à l'eau de vitrine.
En tout cas, une chose est sûre, crustacé, c'est sans avenir.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Ils sont tous en ordre de bataille, toutes pinces et antennes dehors, les cuirassés de la mer, dans le studio 521 de la maison de la radio. Alors il y a évidemment le homard, le chevalier des mers, avec son blindage bleu et ses pinces imposantes, mais d'autres crustacés se tapent l'incruste sur notre plateau. Tourteaux, araignées, langoustes, langoustines. On va apprendre aujourd'hui à mieux les connaître et à mieux les cuisiner, ces crustacés, avec l'homme par qui ils sont arrivés. Sur notre plateau, c'est Charles Guerriac, bonjour.
Bonjour, toujours la pêche.
Oui, ben je vois ça, ravi de vous retrouver sur le plateau dont on va déguster, cher Charles. On vous en remercie, hein. Belle cargaison quand même, bel arrivage.
Et on a mobilisé les pêcheurs.
On va se régaler, vous êtes expert de la pêche, fondateur de Poiscaille, de circuit court de la mer. Vous travaillez avec un réseau de petits pêcheurs côtiers sur tous les littoraux de France, ce qui explique d'ailleurs notre très beau banc décaillé. On a plein de questions à vous poser, Charles, je vous préviens. L'émission est assez chargée. Pour passer à la casserole, le homard et ses copains, de la tête à la queue, s'il vous plaît, sans rien jeter, notre chef chroniqueuse Manon Fleury, bonjour.
Bonjour.
Ça va Manon?
Très bien.
Vous avez déjà dressé des assiettes qu'on peut raisonnablement qualifier de superbes.
Colorées, disons.
Colorées. Alors là, vraiment, des stratégies autour du homard absolument insoupçonnées. Vous avez vraiment bossé. Également avec nous, notre chroniqueur vin Antoine Gerbel et notre monsieur cinéma Laurent Delmas. Salut les copains.
Bonjour.
Bonjour. Ça va?
Ça va très bien.
En forme. Antoine?
Ah ben moi je vous ai pêché une perle allemande qui s'est installée sur une très vieille mer comme nous tous nos grands vignobles, la Bourgogne.
C'est vrai que ce fut une mer, on l'oublie un peu trop mais c'était il y a très longtemps. Laurent?
Oui ben ce sera pas la graine et le mulet, ce sera la pince et le ciné.
La pince et le ciné, le homard fait son cinéma dont on va déguster. Si vous avez des questions, des remarques, des recettes sur le homard et ses cousins crustacés, envoyez-nous un message à onvadéguster@radiofrance.com ou bien sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour accéder à tous les contenus de l'émission, recettes, infos pratiques, podcasts, le chemin est tout tracé, franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Avant de partir en mer, chers amis, je vous propose une assiette de la terre. Vous l'avez sous les yeux dans une petite barquette en carton. C'est une création surprise. Attention, le seul indice, c'est qu'elle est entièrement végétale. Je vous invite à planter votre fourchette et me dire ce que vous en pensez. Tiens, allez, il a la bouche pleine, Charles Guerriac.
C'est bon, ça, petit hachis, les carottes, la coriandre.
Ouais.
J'arrive pas à tout identifier. Mais...
hachis, il y a du hachis. Laurent?
Ah ben, il y a de la carotte, ça va les changer du resto U. Hein. Parce que la carotte du resto U, moi, c'est ce qui m'en a dégoûté à vie. Donc
c'est
là, quand je mange ça, c'est autre chose. Quoi.
Alors, c'est une carotte qui a été légèrement saisie, comme ça, un peu sautée à l'huile d'olive, et qui joue un peu le rôle de pâte végétale.
Mm-hmm.
Manon?
Et dessus, il y a une espèce de sauce,
ouais,
un peu épaisse.
Oui.
Je dirais à base de lentilles.
Bravo!
Avec de l'oignon, il y a beaucoup d'oignons aussi.
Il y a beaucoup d'oignons, c'est une bolognaise de lentilles selon le chef dont je vais vous citer le nom, Antoine.
Moi j'adore, ah. Je suis en train de manger, excusez-moi.
Non,
je
vais finir.
Il a commencé à manger le reste.
Vous aimez?
J'adore la lentille. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté carotte comme on les connaît râpées, c'est vrai,
ouais,
de notre enfance.
Ouais. Mais donc il y a d'un côté des carottes râpées dans le rôle de spaghetti, de l'autre une espèce de sauce bolognaise façon ragoût où les lentilles, vous l'aurez compris, remplacent un peu la viande hachée avec beaucoup d'oignons, de l'ail, des épices, un peu de sauce tomate. C'est un plat 100% végétal signé Romain Médère, le chef 3 étoiles du Plaza Athénée. Vous le connaissez ou pas Manon?
Très bien.
Ah bon?
Oui.
Vous êtes
beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup l'esprit qu'il donne à la cuisine et
vous et avez le fait avec qu'il lui
non, j'ai pas travaillé avec lui mais j'ai déjà rencontré et j'ai déjà échangé avec lui et je trouve que son travail est remarquable et très inspirant pour en tout cas la cuisine du futur. Pour moi c'est la cuisine du futur.
Et ben on est carrément alignés, je suis tout à fait d'accord. Romain Médère, un chef, une tête chercheuse, vraiment un chef qui cherche, c'est compliqué à dire. Nous l'avons reçu à ce micro il y a quelques semaines. Et ben c'est le genre de création végétale futée et inspirée d'abord qu'il prépare pour Naturaliste, le service de livraison de plats végétaux sains et éco-responsables qu'il a fondé à Paris avec Alain Ducasse. Mais c'est surtout l'un des plats qu'il va concocter samedi prochain, le 17 avril, ici même, à la Maison de la Radio. Car Romain Médère a accepté d'être le parrain et le chef d'orchestre d'une opération lancée par l'association Collectif Solidaire. Et notre émission, on va déguster Radio 8, le bistrot panoramique. Vous connaissez Laurent, situé au premier étage de la Maison de la Radio.
Comme ça.
Vous avez votre rond de serviette là-bas, non? Il est fermé en ce moment.
Ben oui.
Pour évidemment. Cause de crise sanitaire.
Hélas.
Mais il nous prête ses cuisines, ce restaurant. On le remercie beaucoup. Et on va se retrouver samedi prochain, en respectant évidemment les gestes barrières, avec la brigade de Romain Médère, les bénévoles de Collectif Solidaire, la bande dont on va déguster, dont Elvira Masson et moi, pour concocter toute la journée près de 600 repas, entrées, plats, desserts, qui seront distribués le soir même aux étudiants de la région parisienne. Voilà, Collectif Solidaire, on va déguster. Et le chef Romain Médère se mobilise pour les étudiants samedi prochain. Et il y a...
On a rien dit sur le petit condiment.
Vous avez
très,
raison.
Très aillé qui va avec.
Ouais, ça s'appelle la toume. Ça, c'est vraiment remarquable.
C'est
on va qualifier ça, cette espèce de sauce blanche, comme un aioli levantin.
On d'ailleurs, met très bien avec des bulots.
Voilà,
ah oui,
ce que j'allais dire.
C'est
une espèce d'aïoli libanais. Alors d'habitude, c'est huile d'olive, beaucoup de citron et de l'ail. Sauf que là, Romain Médère, très très futé, remplace l'huile d'olive par du blanc d'œuf. Ça donne une sauce sans matière grasse, extrêmement onctueuse.
Très léger, très, ouais.
Et la bonne nouvelle, c'est que la recette de cette bolognaise de lentilles végétales, ainsi que la toum, T-O-U-M, ce condiment libanais, eh bien ces recettes sont en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Voilà, à la barre de cette émission en direct, Laurent Thomas, Élise Christophe, Nadia Chougui. Dans un instant, homard et crustacé dont On va déguster. C'est juste après Cool Colorado, le nouveau titre de La Femme, choisi par Djoubaka. On va déguster la mer sur France Inter.
M'asseoir sur tes bancs et respirer le vent ici. La vie est calme, les anges me caressent et je fume dans les rues sans le stress. Un peu comme à l'ancienne, loin de mes problèmes. Là où on vient, juste sentir la chaleur et sentir la douceur du vent des montagnes. Sweet Colorado, la radio joue un morceau de cowboy. Sweet Georgia Brown dans les cheveux, je fume cigarette, papier maïs. Au coin de la sixième, je viens du nord pour rejoindre l'ouest. Je pose mes valises chez Lizzie à Denver City, c'est là que le train me laisse.
Sur ce bateau, ils sont quatre marins. Ils partent tous les matins à marée haute et rentrent le soir au port à marée haute. La pêche au homard ne se fait ni à la ligne, ni au filet, mais avec des casiers qui sont des pièges. Pour y attirer crabes et homards, on les garnit de morceaux de poisson qui servent d'appât. Mais on pêche aussi le homard autrement. À marée basse, certains paysans de l'île vont le traquer sous les rochers découverts par la mer. On marche beaucoup pour peu de résultats. Mais ce qui compte, c'est la recherche.
C'était un extrait de « La pêche au homard ». Un film de Christian Vidali, je me tourne vers Laurent Delmas, datant de 1973. Et ce film racontait avec une certaine langueur, vous l'avez observé, la pêche à pied ou au casier, à l'île d'Oléron. Presque un demi-siècle plus tard, en 2021, Charles Gariec, est-ce que les techniques de pêche au homard n'ont pas trop changé? On utilise toujours ce qu'on appelle un peu les engins passifs, le casier?
Exactement, art dormant, donc casier en immense majorité. La pêche à pied, c'est réservé à la pêche récréative, donc de loisirs, quand vous allez le week-end à la grande marée, comme on dit. On en pêche un petit peu dans les filets, dans les chaluts, mais c'est de manière accessoire, donc c'est pas forcément une cible. Et maintenant, on en pêche partout, dès qu'il y a du caillou. Le casier, il est bien pour aller piéger dans ces endroits où on peut pas aller avec d'autres engins. Et c'est parti.
Et est-ce qu'on pêche toujours le homard à l'île d'Oléron, comme dans les années 70?
Bah oui, on le pêche toujours. Je me souviens même, il y avait un programme Adopter un homard où on pouvait financer des petites larves de homard qu'on mettait dans l'eau et qu'on suivait à l'île d'Oléron.
Parce qu'alors, le homard, où est-ce qu'il se trouve? Sur toutes les façades maritimes de la France, on pense plutôt spontanément à l'Atlantique, même si le homard, visiblement, vit aussi en Méditerranée.
On en a un petit peu en Méditerranée. Il est minoritaire par rapport à la langouste, qui prend vraiment toute la place, on va dire. Et le homard, on en trouve, mais c'est ponctuel.
Notre chef Nordine Labia, ami commun, Charles Laurent Delmas, m'a envoyé un extrait du journal de Corse Matin. À Santobroge, un homard de 5 kilos oui, a été pêché. Il a d'ailleurs été offert à un centre marin près de Bastia.
On les garde souvent.
Pour l'étude, mais c'était quand même spectaculaire. Donc preuve qu'il
mais
est vraiment...
Il serait bien, il serait bon.
Est-ce que les plus gros,
bah oui, quand même.
Est-ce que les plus gros, les plus
voilà,
si, moi, je sais
question.
Pas, il y a toujours des débats.
Ouais.
Mais oui, il serait mangeable, il n'y a pas de raison. Quoi.
Quels sont les principaux spots de pêche du homard? On pense souvent à la Normandie et la Bretagne quand même, Charles.
Normandie, Bretagne, alors ça se tire la bourre et on ne sait pas, les statistiques ne sont pas forcément très claires parce que beaucoup de homard est vendu hors des criers, donc on n'a pas forcément toutes les statistiques de vente. Donc je pense que Normandie et Bretagne se tirent la bourre sur les volumes de homard en France, mais il faut savoir que la majorité du homard bleu, donc dit européen, qu'on mange en France, en fait, il vient d'Écosse, d'Irlande, où les pêcheries sont bien plus importantes.
C'est ça.
Donc on achète beaucoup du homard importé, donc attention à l'achat, à demander d'où il vient exactement. Le risque, c'est d'acheter du homard qui a été stocké en vivier pendant plusieurs mois et qui est franchement un peu moins bon. C'est là où on dit qu'il est un peu flotteux, c'est-à-dire qu'il garde son poids, mais en fait, la chair est remplacée par de l'eau.
Ah.
Donc au final, du homard qui a été pêché en Écosse, là en ce moment, là, ça, on va rentrer dans la pleine saison, débarquer maintenant, puis garder jusqu'à l'été, voire jusqu'à Noël pour être consommé, c'est pas une super affaire. On regarde donc bien les antennes. Il faut que les antennes soient complètes. Il y en ait au moins une des deux qui soit complète jusqu'au bout.
Et ça, c'est le signe?
C'est le signe qu'il n'a pas fait de vivier. Donc, ça veut dire qu'il a été débarqué récemment.
C'est ça.
Si les deux antennes sont amputées et courtes, qu'elles font 3-4 cm, c'est un homard qui a passé du temps dans un vivier. Il se marche un peu dessus, il se bat, et donc il se raccourcit ses antennes.
Vous m'avez livré ce chiffre sidérant en préparant cette émission. 80% du homard bleu consommé en France serait pêché en Irlande-Écosse.
C'est ça, on mange à peu près 5000 tonnes de homard par an et on en pêche 500 à 1000 tonnes en France.
Et 75% du homard bleu pêché en France serait pêché en Normandie?
Ça ouais, j'ai vérifié, j'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment le cas. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de ventes directes en Normandie? Mais a priori, ouais, la Normandie est vraiment une terre de pêche au homard, ou une mer de pêche au homard, et forte, et vraiment où il y a beaucoup de pêche professionnelle au homard.
Alors depuis quelques minutes, on cite cette appellation mythique, il va falloir qu'on rentre un peu dans les détails, car dans l'imaginaire collectif, il y a un homard qui domine les autres par son prétendu goût, par sa prétendue couleur, c'est le homard bleu. Souvent on rajoute de Bretagne, mais on se rend compte, comme vous venez de le dire, qu'il vient souvent effectivement d'Irlande ou d'Écosse. À quoi correspond cette appellation? Est-ce que c'est une simple couleur? Est-ce que c'est donc un phénomène chromatique qui concerne un certain homard? Est-ce que c'est une espèce différente?
Alors, c'est le Homarus gammarus, c'est donc le homard européen.
Oui, parce qu'il y a Gammarus pour l'Europe,
c'est ça.
Mais il y a également le homard de nos cousins
américains, l'Americanus, donc qui lui est en général plus rouge, qu'on appelle aussi canadien.
Uh-huh.
Alors on dit beaucoup aujourd'hui homard nord-américain pour ni dire américain ni dire canadien, comme on dit homard européen pour pas dire homard breton. On n'a plus le droit de dire homard breton quand on est poissonnier, parce qu'en fait, c'est une indication d'origine qui est pas forcément validé ou qui est pas forcément où il y a rien derrière.
D'accord, il y a pas de
réglementation particulière. Donc on parle d'homard bleu européen, nord-américain, alors on dit souvent homard canadien.
Oui.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le homard canadien, lui, il est plutôt rouge.
Oui.
Alors que le homard européen, il est plutôt bleu.
Donc homard bleu, c'est cohérent de l'appeler ainsi.
C'est cohérent de l'appeler ainsi.
Très bien. Manon Fleury. Alors, on a un petit débat, hein, très souvent. Ça, c'est un débat, ça fait 20 ans qu'on est dans le métier, on l'a souvent entendu, j'ai beaucoup entendu les chefs parler de cette supposée différence de goût, parfois de taille, entre le gammarus, donc le homard européen, et l'americanus, qu'on appelle aussi le homard canadien, mais qu'on appelle aussi le homard du Maine, qui est beaucoup pêché du côté du Maine. Vous avez eu la chance d'avoir pas mal d'expériences outre-Atlantique, et notamment chez le chef Dan Barber, dans l'état de New York, qui fait une remarquable cuisine dans le restaurant The Blue Hill. Vous l'avez cuisiné sur place,
oui.
Ce homard américain. Vous observez une différence entre notre homard bleu et le homard des Américains?
Bon, j'espère que Dan Barber écoute pas cette émission, mais pour être honnête, j'ai été vraiment dégoûtée du homard américain en cuisinant le homard aux États-Unis.
Carrément.
Et je suis revenue en France et je me suis dit, il n'y a rien de vaut un homard bleu, quoi.
Non, attendez, c'est du chauvinisme, vous avez constaté.
Déjà, je suis vraiment chauvin, donc ça c'est. J'étais vraiment très contente de revenir au terroir français, et c'est bien d'aller ailleurs pour se rendre compte de la richesse des produits français. Mais du coup, effectivement, moi je trouve que le homard américain est beaucoup plus cotonneux, beaucoup plus flotteux.
On le dit souvent.
Avec moins de texture. Et là, en recuisinant le homard qui venait de chez vous, je me suis encore aperçu de ça. Enfin, il y a une texture qui est incroyable, qui est incomparable avec celui de.
Et cuisiné dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, alors on va discuter
sans
vivant,
voyage.
Pas vivant, etc. Mais sans voyage, parce qu'on pourrait se dire à la limite, il y a un peu de homard du Maine qui nous arrive sur le marché français.
Beaucoup
même.
On en pêche 150 000 tonnes dans le Maine, quand on pêche 5 000 tonnes d'Européens en Europe. Donc il y en a beaucoup qui arrivent sur les étals français.
Absolument, et notamment dans un restaurant mythique, on le cite, hein. Paul Bocuse, qui avait 3 étoiles pendant très longtemps à côté de Lyon, avait fait le choix, dans son menu des classiques, d'utiliser du homard du Maine. On pourrait se dire que c'est le voyage qui leur donne un petit coup dans l'aile et qui du coup modifie leur qualités organoleptiques. Il n'y a pas que ça visiblement, il y a une question aussi peut-être de température de l'eau ou de fond marin.
Moi je dirais de fond marin. Le homard du Maine, il est beaucoup pêché sur des fonds de vase.
Mm-hmm.
Il est pêché au chalut. Alors est-ce qu'il est abîmé pendant la pêche? Est-ce que le fait de grandir sur la vase lui donne moins de goût? Faudrait comparer en fait homard du Maine et homard du Québec ou de l'île de la Madeleine qui eux sont pêchés au casier dans des roches. Peut-être qu'on verrait une différence de goût. Voilà.
Le débat reste ouvert.
Le débat reste ouvert.
Le homard aussi, accessoirement. Peut-être qu'il y aura des questions sur ce sujet, cher Laurent.
Pour l'instant, pas sur le homard. On a des questions sur les étrilles, notamment. Mais ça va venir.
Il y en a des étrilles, là.
On nous parle aussi des araignées. Voilà. Il y a des questions.
On va y venir. Parce qu'on a des araignées de mer. On a des étrilles. On a quantité de crustacés sur ce plateau. Autre question, évidemment. Elle vous intéresse forcément puisque vous êtes particulièrement sensible, à la pêche durable. C'est d'ailleurs au cœur de votre métier avec votre entreprise Poiscaille, Charles Guériec. Les stocks du homard européens.
Ils sont bons, ils sont en bon état. J'en parlais avec un ingénieur à Lieut qui me disait, en fait, le homard, il y a des moments il y a de l'abondance, mais on n'arrive jamais à tout pêcher parce qu'il est planqué dans les roches. Malgré le fait que les pêcheurs disent qu'il y a beaucoup de concurrence, des pêcheurs récréatifs, notamment des casiers qui restent sur les côtes toute l'année et pêchent beaucoup, au final, on a un état des stocks qui est bon. Le casier piège, qui était un casier qui empêchait les homards de sortir des casiers, a été interdit dans beaucoup de pays européens, notamment en France et sur nos côtes. Et donc, ça fait qu'en fait, les homards, ils arrivent à rentrer dans les casiers, ressortir, et la pêcherie est saine. Donc, on peut y aller sur le homard européen sans problème.
Alors, on peut y aller, donc c'est déjà une bonne nouvelle sur le plan environnemental. Il faut toutefois avoir un certain budget, et on en vient tout naturellement à la question du prix du homard. Parce qu'il est vrai que le homard, ça se passe souvent sur l'étal, comme dans la casserole, ça flambe. Ça fait même un peu de yo-yo, le prix du homard, au fil de l'année. On comprend pas toujours pourquoi il y a des périodes où effectivement le prix est quasiment inatteignable, et d'autres fois où on peut considérer que le prix est, alors avec 36 guillemets, relativement raisonnable par rapport à son prix moyen. En ce moment, on serait plutôt dans une bonne période d'ailleurs.
On entre dans la période où ça va bien pêcher. Donc en gros, mai-juin, c'est vraiment les grosses périodes de débarquement. Depuis 2-3 ans, il y a un peu moins de pêche. Donc on ne retrouve pas ces affaires qu'on a retrouvées entre 2015 et 2020 du homard à 20 euros sur l'étal chez le poissonnier. Mais en allant en direct chez les pêcheurs à la côte, vous allez en Normandie, vous allez en Bretagne, vous allez en trouver sur les marchés. C'est 20 euros le kilo à peu près toute l'année, enfin toute la saison de pêche. Demandez à votre poissonnier des épatés, donc des homards qui ont perdu une pince, voire les deux, qui vont être payés 30% à 40% moins cher aux pêcheurs. Donc vous allez en bénéficier.
Souvent, et puis, d'ailleurs, on pense, hein, pardon, mais ils perdent leur pince. On pense qu'ils ont été mal pêchés ou un peu agressés au moment de la prise. En réalité, c'est souvent le résultat de combats de territoire de ces homards qui perdent une pince et c'est assez naturel parce qu'elle repousse.
Exactement, elle va repousser dans les mues suivantes. Donc, on va trouver des homards avec une pince de taille normale et une pince miniature. Et donc, pour revenir sur la question du prix, bah, n'achetez pas du homard en plein été quand tous les touristes débarquent à la côte. En plus, vous allez certainement acheter du canadien sur un plateau de fruits de mer où vous vendra le royal. Évitez ça, achetez directement.
Et qui a peut-être fait 3 mois d'aquarium ou
voilà,
de vivier.
Donc, c'est franchement, ça aussi. En plus, ça coûte cher. À ce moment-là, on monte à 60, 80, 120 euros du kilo. Franchement, c'est très cher pour ce que c'est. Et je suis pas d'accord souvent avec les cuissons. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, évitez Noël. On monte pareil. Il y a des coûts à 100, 120 euros du kilo. Il n'y a pas de pêche au homard à ce moment-là européen. Donc vous allez acheter surtout du homard. Nous, on en a 20 pièces par an à Noël. Vraiment pêché au mois de décembre, 10 jours avant Noël. Mais franchement, à 80 euros pièce, ça commence à faire cher le repas. Donc on attend, on garde ses sous pour le printemps. Et là, on se fait plaisir, on aura 4 pièces au lieu d'une au même moment.
Il y a du homard en ce moment dans les casiers que vous envoyez, poiscaille?
On commence à en avoir, ça y est. Et on attend mai, là. Ça va être mai où la débarque de partout. Et là, on peut trouver, bah, pour 20 euros, on peut avoir 2 homards dans son casier ou un homard et 1 kilo de moule. Et ça, ça se précipite pas mal à 19h quand les réservations des casiers ouvrent.
J'imagine, on passe en cuisine avec Manon Fleury, mais on ne peut pas, cher Manon, éviter ce débat. Oui, car un débat s'est invité dans le monde de la gastronomie et de l'alimentation depuis maintenant quelques années. Un débat lié aux questions plus générales du bien-être animal sur la souffrance des homards au moment de leur donner la mort. Rappelons qu'en mars 2018, la Suisse a interdit la plongée dans l'eau bouillante des homards vivants. Oui, parce que des scientifiques se sont penchés sur la question et se sont rendus compte qu'un homard que l'on plongeait dans ce que l'on appelle une chauffante, hein, c'est-à-dire vraiment de l'eau bouillante salée, ou peut-être pas salée d'ailleurs, hein, pour le homard, on va se poser la question, mais je sais que la cuisson à l'eau, c'est pas le truc de Manon, donc elle va pas insister, elle va pas insister là-dessus.
Mais c'est très bien aussi, hein, ça, c'est une alternative qui, moi, pour moi, peut fonctionner, mais enfin, en tout cas, moi, je ne cuisine pas comme ça.
C'est ça, en tout cas, un homard mettrait de 2 à 3 minutes.
Oui.
Pour mourir.
Ouais.
Donc il y a quand même une agonie qu'on peut considérer comme assez cruelle pour ce pauvre homard qui se débat dans la grande casserole. Comment vous faites-vous personnellement ?
Ben déjà, il y a une technique pour quand on le reçoit. Déjà, ce que disait Charles et qui est tout à fait juste, c'est-à-dire que il faut consommer le homard vivant et pas mort. Et donc c'est comme ça.
C'est ça le problème, que ça change tout.
Voilà, si on le reçoit mort, c'est qu'il y a un problème. Donc nous, en tant que chef, c'est vraiment, c'est dans nos habitudes de le cuisiner vivant et c'est normal de le cuisiner vivant. Évidemment, il y a encore des débats aussi au sein de la restauration, etc., pour savoir si c'est bien de cuisiner du homard ou pas. Moi, je trouve que c'est assez rare maintenant en tant que chef de cuisine de se retrouver avec un animal vivant en cuisine. Et finalement, moi, je trouve que c'est assez symbolique et de se dire, si je suis capable de tuer cet animal, je serai capable de le manger. Et finalement, pour moi qui suis pas une grande mangeuse de viande et qui prône pas le fait de manger beaucoup de viande et de manger beaucoup de protéines animales, je trouve que le symboliquement, le fait de tuer son propre animal et de le manger ensuite, a quelque chose de vraiment en tout cas qui s'inscrit dans une cohérence naturelle et du cycle naturel animal.
L'omnivore.
Oui.
Omnivore, exactement.
Mais pour le faire souffrir le moins possible.
Donc, pour le faire souffrir le moins possible, moi, ma technique, c'est de le mettre un tout petit peu au froid.
Congélateur
pendant.
L'endormir
une quinzaine de minutes et puis ensuite lui mettre un coup de couteau sec entre les yeux.
Là, à ce moment-là, petite croix.
Voilà. Comment ?
J'ai une petite croix qu'il a sur le thorax pour caler le couteau et très bien.
Ouais.
Ça permet de mettre un coup droit en appuyant et sans déraper et se blesser. C'est ça le risque parce que quand même la carapace elle est ronde. Donc par contre il y a une petite encoche là et une fois qu'on a transpercé, voilà. Alors oui il y a des réflexes encore mais je pense que la bête est morte et c'est fini. Et après on la cuisine.
En tout cas c'est beaucoup moins violent entre guillemets effectivement que de l'ébouillanter et de le laisser mourir pendant 2-3 minutes. Laurent Delmas, une réaction ?
Mais il y a un auditeur qui nous demande comment différencier le mâle et la femelle et est-ce que c'est gustativement intéressant de savoir si c'est un mâle ?
C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, Charles.
Pas forcément facile. Alors la femelle va avoir l'abdomen donc plus large à sa base pour accueillir les œufs. Donc demandez plutôt à votre poissonnier ou à la personne qui vous vend le homard ou au pêcheur, ce sera le plus simple pour pas le rater. Mm-hmm. La femelle, en fait, l'avantage, c'est qu'elle peut avoir à l'intérieur du corail, qui sont les futurs œufs, et qui vont être utilisés, donc bleu à cru et deviennent rouges à la cuisson, qui peut être utilisé pour faire une sauce. Et franchement, ça a un goût qui est exceptionnel.
Là, par exemple, j'ai récupéré les œufs que j'avais. J'avais pas mal en cuisinant tous les crustacés que j'avais. Il y avait des œufs sur le tourteau, il y en avait aussi sur le homard. Et j'ai fait un beurre à base de corail. Donc, on fait un beurre qu'on fait fondre doucement, donc un beurre, ce qu'on appelle un beurre clarifié. On y ajoute le homard, on le fait cuire dedans. Donc, à ce moment-là, il devient rouge. Et puis, on le fait refroidir. Et à ce moment-là, je l'ai incorporé à un gâteau. Donc, j'ai fait un gâteau ou une sorte de pain à base de beurre de.
L'idée, c'est de rien jeter, en fait. Ça vaut cher et c'est rare et c'est précieux comme animal. Donc, on l'exploite jusqu'au bout. Donc, des sauces, des bisques, des...
Il y a un très, très beau mot dans la langue française pour désigner justement cette opération qui consiste pour désigner cette mutation chromatique du homard entre le bleu et le rouge, notamment quand on plonge un homard dans l'eau bouillante. C'est là.
Cardinalisation?
La cardinalisation. Cardinaliser un homard. Pourquoi?
Parce qu'il devient rouge comme la robe des cardinaux, a priori, vous avez cru comprendre. Donc en gros, un pigment qui est bleu à l'origine se sépare d'un autre et ça fait rouge à la cuisson.
C'est ça.
Voilà, les ingénieurs, les ingénieurs de la carapace iront chercher sur Internet l'explication exacte.
C'est ça, en tout cas, il y a effectivement, bien entendu, une réaction chimique à l'origine de cela. Allez, la stratégie de Manon pour ne rien gaspiller dans le homard. Alors, on dit que vous n'aimiez pas cette cuisson du plongeon dans l'eau bouillante, vous préférez comment?
Moi, je préfère la cuisson vapeur. Parce que ça évite au corps de se regorger d'eau en le plongeant dans l'eau bouillante. Et je trouve que c'est une cuisson assez douce, finalement, assez rapide. Parce que sur un homard à peu près de... Là, on a des homards qui sont un peu plus gros, il me semble, mais homard à peu près de 500 grammes. Mm-hmm. Je dirais que la queue se cuit très rapidement en 4-5 minutes. Mm-hmm. Et les pinces en 8 minutes.
Donc la queue entière non sortie du...
Oui, non sortie de la carapace.
Avec la carapace.
Et on sait parler d'eux, alors.
Et on sépare les deux.
C'est ça. On sépare les deux, on cuit ça à la vapeur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, cher Manon?
Et ensuite, on peut donc tout utiliser. On a séparé la tête juste avant, on le précise. Et la tête, on peut faire à la fois une bisque que vous avez devant vous, là, que je vous ai amené aujourd'hui.
Alors, regardez ça. Alors, la bisque, c'est ça, hein?
Oui. La bisque, c'est de votre petit pot.
Oui, c'est dans le petit pot.
Oh là. Alors, c'est un peu froid, hein, mais...
On ne peut pas se tromper.
Et ça, quand même. Alors ça, voilà. Deuxième repas avec le même crustacé.
On peut parler, enfin, il ne faut pas employer ce mot à tort à travers ou mamie. Bon, une sapidité, une profondeur abyssale de cette sauce.
On peut dire corsé. Moi, j'aime bien corsé. Parce que c'est vraiment le mot qui définit les crustacés.
Oui, mais en même temps, c'est rond et doux. C'est à la fois sucré. C'est une vraie friandise. Et puis, il y a cette saveur vraiment profonde.
Et il y a du sucre. C'est intéressant. Oui, c'est très bonbon.
Il n'y a pas ce goût parfois un peu violent.
Un peu métallique.
Un peu métallique et un peu fort. Quand on goûte une première fois une bisque, on a un petit choc quand même. Là, c'est vrai que c'est très arrondi.
Très rond.
Ah là là, splendide. Ça commence bien. Alors, comment l'a fait cet homard, cette bisque, avec la tête?
Avec la tête et puis aussi la carapace que j'ai récupérée aussi en décortiquant le homard. Donc, on peut tout récupérer pour faire notre bisque. Donc, on fait suer quelques oignons, on met un tout petit peu de concentré de tomate et on fait revenir nos carapace qu'on mouille avec de l'eau. Après, vous pouvez ajouter de l'alcool, faire flamber si vous voulez un petit goût d'alcool. Mais voilà, donc c'est le seul principe d'un bouillon qu'on fait réduire assez, comme autant qu'on veut en fait, autant qu'on veut le faire réduire, autant qu'on veut que ce soit concentré. On peut s'en servir pour faire pour lier des pâtes.
C'est carrément, ça se mange comme ça, c'est une crème dessert.
Tout à fait. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que laisser les carapaces une fois qu'on a mouillé et qu'on a cuit un peu toute la nuit dans le bouillon permet de donner du meilleur goût.
C'est le cas.
Le cher guerrier qui il perd pas le nord.
Et on peut vraiment en plus optimiser les carapaces jusqu'au bout en faisant ce qu'on appelle souvent communément en cuisine quand on remouille, on appelle ça une remouille, quand on remet de l'eau sur les carapaces après s'en être déjà servi pour faire un bouillon. On remouille une deuxième fois et on pourra encore se faire un bouillon le lendemain pour ne rien jeter.
Ensuite.
Ensuite, on a une salade à base d'agrumes avec les pinces de homard. Donc, vous avez à la fois vous, François Géris, vous avez le corps qui a été cuit assez peu, qui est assez
à lui il a drôle quoi.
Oui,
ah oui voilà.
Et nous les miens. J'ai posé mes conditions.
La pince ou le corps est meilleur? Moi, je préfère le corps.
Voilà. Bah, le corps, c'est quand même, c'est quand même, il y a une texture. Et en fait, donc, je l'ai associé aux agrumes. Là, c'est les derniers agrumes. On est à la fin de la saison des agrumes. Mmh. Donc, pomelo et orange, et avec les premières fêvettes. Donc, c'est vraiment, on se trouve à la rencontre entre le printemps et la fin de l'hiver. Et puis, donc, moi, ce que j'aime bien dans dans le homard, c'est vraiment cette texture, cette chair hyper dense, qui s'accorde très bien avec les agrumes. Et donc, je trouve que la rencontre entre les agrumes et les homards fonctionne.
Je sens une petite note un peu sésame.
Oui, il y a une vinaigrette à base d'huile de sésame.
Ok. Magnifique, hein. Ça c'est un grand plat bientôt servi dans le restaurant que va ouvrir Manon dans quelques mois, mais on ne saura rien pour l'instant.
Et pour terminer, donc j'ai fait une huile de homard à base de carapace. J'ai aussi mis des carapaces d'autres crustacés que j'avais cuisinés. Hein. Il n'y a pas seulement que du homard. Simplement, vous faites revenir encore une fois vos carapaces dans une casserole et vous couvrez à hauteur avec de l'huile de pépins de raisin. Et vous laissez infuser l'huile de pépins de raisin avec les carapaces, et vous obtenez une huile qui est incroyablement orange,
ouais,
translucide,
couleur,
c'est fluo.
Rouge brique.
Ouais, c'est incroyable. Vraiment drôle.
C'est un homard curd. Et oui, c'est un homard curd.
Exactement.
Oui, c'est un homard curd, c'est très bien dit ça.
Oui, tout à fait. Et j'en ai fait, j'ai monté une mayonnaise avec cette huile. Et ça fait vraiment quelque chose de concentré, c'est joli, c'est orange. Et on pourrait imaginer vraiment plein de préparations avec l'huile de homard.
C'est splendide. Et cette petite création abstraite avec un légume mandoliné.
Oui, ça c'est du tourteau.
On va en parler après.
Mais on en parlera après.
Non, mais c'est vrai que c'est du... On va venir au tourteau évidemment, puisque on va pas parler de homard du pauvre. Hein. Mais le tourteau fait évidemment partie de notre menu. Superbe stratégie de Manon Fleury autour du homard pour ne rien gaspiller. Et tout cela, ça se retrouve, et c'est ça la très bonne nouvelle, c'est que ça se retrouve sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Tout a été consigné avec beaucoup de précision. C'est vraiment des recettes extraordinaires. Dans un instant, on poursuit évidemment notre aventure avec du cinéma, du Bourgogne, du tourteau. Quel autre crustacé
De l'araignée.
De l'araignée, bien sûr, Charles. Et ben même des étrilles. Voilà, tout ça, c'est juste après notre pause musicale.
Call me a fool. Thank you.
Valérie June, la nouvelle diva du blues originaire de Memphis avec le titre Call Me a Fool. On en pince pour le homard et ses copains crustacés sur France Inter. C'est l'heure pour le roi des mers de faire son cinéma.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Je t'avais bien dit que c'était une gaffe. On ramène pas des trucs vivants chez soi.
Non, fais pas ça, non. Arrête, tiens. Récupère celui-là, là-bas.
On devrait peut-être appeler la police. Allô, ici Omar. Passez-moi le service des langoustes.
Oh, dis-t'en fais un peu. Ce sont que des bébés, Omar. Allez, courage.
Si ce sont que des bébés, alors ça doit t'en occuper.
Oh, très bien, je vais le faire. Tiens, prends-le, tiens.
Non, non, me le donne pas surtout. Non,
tiens,
non.
Tiens.
Regarde, regarde, regarde. Il y en a un qui rentre derrière le réfrigérateur.
Hein?
On va finir par faire lit commun ce soir, tu vas voir. Fiche le camp avec ta bestiole. Oh mon Dieu.
Prends-le.
Hein? Non, parle-lui, toi qui en pince pour ceux qui savent nager. Dis, mais le dans fait tout.
Ah, ça, non, non, ça, je peux pas coller un machin vivant dans le bruit.
Qu'est-ce qu'il s'imagine qu'on va l'emmener voir en western?
Oh, Seigneur, la voilà.
Ah, voilà. Non, il est dedans.
Attends,
il est bel et bien au courbouillon maintenant. Annie, Annie, il y a une grosse bébête derrière le frigo. Oh, j'arrive pas à la sortir de là. Oh, est-ce que c'est lourd? Peut-être qu'en mettant de l'armoricaine, là, par terre, avec un casse-noix, il prendra la tangente.
Des aventures ou des mésaventures autour d'un homard vivant dans sa cuisine, ça nous rappelle des souvenirs de cinéphiles.
Ben oui, c'est la scène mythique de Annie Hall, hein, avec Woody Allen et Diane Keaton, qui sont des bobos new-yorkais absolus et qui passent les vénards un week-end à Long Island dans une superbe maison. Et effectivement, ils ont décidé de cuisiner des homards. Bon, c'est peut-être pas ce qu'ils font de mieux d'ailleurs à ce moment-là.
Oui, d'ailleurs, ils auraient dû écouter Manon Fleury et son avis sur les homards américains.
De toute façon, ils sont pas bons. Et en plus, il y a une question, comme elle dit bien, Diane Keaton, des jeunes homards. Est-ce qu'il faut les consommer jeunes ou vieux? Est-ce que c'est
Charles.
Je pose juste la question à Charles comme ça.
Moi, je dirais taille intermédiaire entre 800 grammes et 1,2 kg. C'est là où je pense qu'il y a le meilleur ratio chair, carapace. Les gros, beaucoup de carapace très épaisse. L'enfer à couper. Donc voilà, on va se retrouver à peu près la même scène si on prend les gros.
Bon, là, évidemment, l'intérêt de la scène, c'est que ça donne une complicité au couple. Voilà, c'est plus ça qui les unit, ou qui les désunit, en l'occurrence. On ne saura absolument pas le goût, d'ailleurs, de ce homard, puisqu'il n'y aura pas de scène de dégustation ensuite. Il y a en revanche à peu près la même chose, d'ailleurs. C'est-à-dire, on sait qu'il y a du homard dans les assiettes, dans César et Rosalie, à la toute fin, la scène finale de César et Rosalie.
Le homard aussi, hein.
Et voilà, du homard aussi. Seulement, il faut vraiment, on vous passera même pas la scène, parce qu'il faut avoir une ouïe extrêmement fine pour deviner que ce hableur de César dit à son nouveau copain, qui était son ancien rival, Sammy Frey, qui vient de le cuisiner, du homard au cidre, effectivement, et alors ils ont ça dans leur assiette, seulement à ce moment-là, c'est là que la belle Rosalie revient dans leur vie, et le homard disparaît, il faut bien le dire, absolument, et on ne saura pas non plus, réellement, s'il est bon ou pas. Mais en tous les cas, ce film qui n'arrête pas de se passer en bord de mer, hein, on n'arrête pas de manger du poisson dans César et Rosalie.
Il est un peu subliminal, quand même.
Oui, Côte de Bretagne, et à 7 aussi, mais quand même, c'est une bonne façon de terminer le film, c'est-à-dire Rosalie revient et le homard est sur la table. Voilà, donc c'est aussi une façon de faire les choses. Alors il y en a un en revanche qui parle du homard face caméra, c'est votre ami Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. Charles Duchemin, c'est à peu près vous êtes inspiré de son modèle, cher François Régis, pour être ce que vous êtes dans la vie. Donc Charles Duchemin, il est face caméra et effectivement il va présenter sa recette du jour.
Tous les produits sont là.
Oui, monsieur le directeur.
Bon, alors, je vais commencer. Alors, pour l'inspiration, musique. Mais Wagner, c'était pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le rhinocéros. Enfin, mais pour la poularde de Bresse, au homard de Roscoff, il faut autre chose. Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée. Et dépêchez-vous!
C'est le film.
L'aile ou la cuisse.
Ben, je me tourne vers Manon parce qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît là, c'est l'alliance terre et mer avec le homard de Roscoff et la poularde de Bresse. Oui. On connaît bien le poulet aux écrevisses du côté de Lyon, par exemple. Donc, c'est un grand classique de la cuisine, ça, cette alliance-là.
Nos amis anglo-saxons diraient surf and turf.
Tout à fait, mais moi je trouve ça magnifique. Et je trouve que dans un plat, dans un menu, quand on fait le lien entre la terre et la mer, quand on fait se faire écho certains plats en utilisant, je sais pas, les carapaces pour cuisiner un jus qu'on va servir avec une volaille, mais il y a rien de plus merveilleux.
Le homard avec du lard aussi.
Le homard avec du lard, complètement.
Breton-cochon.
Breton-cochon,
il y a un homard qui est en train de se sauver du plateau.
On passe à un autre. Alors on passe à un pêcheur de homard, parce que pour l'instant on a vu des dégustateurs de homard, on a entendu des dégustateurs, mais là c'est un pêcheur. C'est Lino Ventura dans un film de Denis de la Patellière qui mérite d'être découvert d'ailleurs, qui vient de ressortir en DVD chez Coin de Mire. Ça s'appelle Le Bateau des Mille. L'autre titre du film d'ailleurs, c'est Le Homard Flambé comme par hasard. C'est adapté d'une nouvelle de Simenon. C'est l'histoire d'Émile Blouet qui est pêcheur de homard à La Rochelle et qu'on voit régulièrement dans le film relever ses casiers avec plus ou moins l'humeur qui va avec.
Que je t'entende plus, hein, parce que la prochaine fois, ça sera plus moi qui m'occuperai de toi, mais ça sera eux.
Qui ça?
Les homards.
Voilà. C'est un gras, c'est un pêcheur, Lino, évidemment. Il fait pas dans la dentelle. Il fait d'autant moins dans la dentelle, mais je ne révélerai pas à la fin du film. Mais on comprend à la fin du film pourquoi c'est adapté d'une nouvelle de Simenon. Et que, bah, quand on est fan de pêcheur, il faut peut-être pas toujours aller à la relève des casiers avec son mari. Dans l'intro de l'émission, on a entendu, Artus de Penguerne, le regretté comédien et réalisateur, parce qu'il avait fait un court-métrage qui s'appelle Le Homard, que vous pouvez voir et revoir sans problème sur la toile. C'est gratuit, et il s'est mis, c'est drôlatique, dans la peau du homard, qui est dans l'aquarium d'un restaurant, et qui voit l'épuisette arriver sur son, c'est lui, il est choisi, voilà. Et donc, on va vivre ces derniers instants, et c'est un court-métrage vraiment très très drôle que je vous recommande. Et puis, ben, puisqu'on en est, à la fin, ben, on va terminer avec votre copain, votre meilleur copain, François Régis, Brice de Nice, hein, qui est, serveur, hein, et puis, ben, voilà, Brice serveur, ça donne ça.
Oh, Brice, sauve-moi, rends-moi la liberté!
Allez, d'accord. M'appelle Bryce, dans la pétaille.
Bryce Bon Appétit. Voilà. Ça donne au moins une indication sur la présence du homard en Méditerranée.
Exactement, mais souvent, malheureusement, il vient du Nord, il vient de l'Atlantique.
Alors ça m'a toujours arrêté le poil, hein, dans les restaurants gastronomiques de la Côte d'Azur, du homard qui vient de Bretagne. Bon, on n'a pas de leçons à donner comme ça aux chefs, etc. Mais c'est vrai que là, on déguste pas vraiment le paysage.
Il y a de la langouste juste à côté. Alors certes, il n'y en a pas beaucoup, elle est chère, mais autant s'approvisionner auprès de ces pêcheurs qui vendent leur langouste.
On est d'accord.
Il y a plusieurs auditeurs qui nous disent aussi que ceci dit, ils ont par exemple goûté leur meilleur homard à Cuba. Donc ni en Bretagne, ni aux États-Unis, mais ailleurs. Voilà, est-ce que vous confirmez?
Alors homard à Cuba, moi j'irais langouste à Cuba parce qu'ils en pêchent beaucoup et je crois qu'il y a de l'export même énormément des Caraïbes de la langouste rose ou verte. Mais alors du homard à Cuba, je pense que c'est un effet Côte d'Azur un peu, ouais, pour Américains ou Italiens à l'époque, ouais, qui allaient faire leurs vacances là-bas.
Ils sont nombreux les Européens à y aller en vacances. Allez, maintenant une recette très particulière signée Antoine Gerbel avec en prime l'accord dans le verre. On va parler de Bourgogne.
On va déguster sur France Inter.
Vendredi, notre ami Antoine Gerbel m'a envoyé un mail avec en énorme police, attention, recette géniale, je veux absolument en parler. Je crois d'ailleurs que, enfin, j'ai même vu les photos qui attestaient de votre expérience dans la semaine. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est une recette familiale. Alors, restez, chers amis, restez au micro parce qu'elle va peut-être effrayer quelques-uns. C'est une recette familiale qui m'a été soufflée par un ami quiberonnais de cœur. Je ne sais pas si elle est originaire de Quiberon, mais je crois quand même qu'elle est un petit peu liée à ce territoire du sud de la Bretagne. Ça s'appelle recette homard au beurre et c'est tout simple. Vous prenez 1 kg de homard, ou plus si vous avez la chance d'avoir plus de homard, et exactement 1 kg de beurre.
Ah, mais vous plaisantez.
Attention, 2/3 de beurre de micelle et 1/3 de beurre doux.
1 kg de homard.
Vous me voyez arriver.
Moi, c'est mémotechnique.
Vous me voyez arriver. Vous faites fondre votre beurre, que du beurre.
1 kg donc.
Il mousse légèrement. Vous tronçonnez très rapidement, comme vous l'expliquez précédemment, votre homard. Vous le plongez vivant dans
vivant tronçonné. Vivant ou on
fraîchement
tronçonné. Ou l'étourdi avant, on va dire.
Voilà, on va dire vivant en petits bouts, dans ce beurre moussant. Et vous le laissez cuire. Alors là, vous dites tout de suite, mais oh, ça doit être gras, c'est terrible. Eh bien non, pourquoi? Eh bien parce que un bon homard, encore une fois, frais, où la chair ne s'est pas contractée dans toute la carapace, occupe toute la carapace. Donc le beurre rentre très peu entre la chair et la carapace. Elle cuit le beurre extérieur et le beurre ne rentre pas dans la chair. Donc ce qu'on n'aime pas dans une cuisson au beurre, c'est quand le beurre est vrai, éponge un peu, quand la chair éponge ce beurre. Non, elle reste à l'extérieur.
Il y a une dimension un peu confite quand même.
Vous égouttez votre homard qui est bien rouge comme on l'a raconté précédemment. Et surtout, vous avez du beurre au homard. Parce que le homard est extraordinaire, mais vous allez prendre à petite louche ce beurre, vous allez le mettre dans des petits ramequins et que vous allez servir à côté de vos pinces ou vos tronçons de homard, à côté du riz ou des pâtes que vous avez fait. Et vous allez mettre par petites touche ce beurre de homard et c'est un concentré extraordinaire de homard. Voilà pourquoi j'aime cette recette.
Avec du riz rond.
Un riz rond. Des pommes de terre en vapeur.
Il faut quand même prendre un féculent ou il faut quelque chose qui absorbe un tout petit peu ce goût. Et puis surtout parce qu'il y a une quantité de beurre un peu importante, vous pouvez réserver ce beurre et le congeler et de temps en temps vous le sortez et vous mettez une petite cuillère de ce beurre homard sur la pâte les pâtes des enfants par exemple. Hein, ça change le
quotidien.
Qu'est-ce
que vous en pensez maintenant? Vous aimeriez goûter?
Je pense que c'est pas très light, mais je pense que c'est une bonne idée.
Pas très quoi?
Non, la toute petite chose qu'on peut dire, c'est que dont on parlera un peu plus tard aussi à propos du tourteau, c'est-à-dire que les crustacés supportent super bien le gras et se mêlent très bien au gras, et le gras enrobe le crustacé et se marie, et que ce soit du gras animal ou de l'amande, comme on verra plus tard, le gras se marie très bien avec le homard.
Et le gras, c'est la vie. Alors bien évidemment, c'est un thème merveilleux pour les amoureux de vin. Vous savez que là, on a la chance d'avoir la palette des vins blancs, on va dire français, je dirais, et on va dire occidentaux. Pourquoi? Parce qu'on a des terroirs pour faire de grands vins blancs qui sont d'anciennes mers. Les cépages blancs poussent sur le calcaire, ce calcaire qui peut être soit champenois, soit dans la Loire, soit en Bourgogne, soit dans le Jura. Vous en avez un peu partout, et c'est là où on fait très grand blanc. Donc je vous citerai pas la liste, plongez-vous dans les bouquins qui recensent un peu tous les accords possibles, voilà. J'avais envie d'ouvrir déjà une toute petite parenthèse pour rappeler qu'on a une semaine de dingue en viticulture, vous avez tous entendu parler de ce gel terrible, ce gel noir, c'est-à-dire les températures sont descendues en dessous de 5 degrés, à une période, on va dire que dans l'histoire de la viticulture, pas dramatique, début avril, il arrive souvent qu'on gèle, sauf que je vous rappelle qu'il y a 3 à 4 semaines d'avance de la viticulture depuis 40 ans. La vigne n'arrête pas, à cause du réchauffement climatique, d'avancer. Or, les gelées, elles restent toujours à peu près à la même époque. Donc, on a aujourd'hui des petits bébés bourgeons qui sont aujourd'hui brûlés. Donc voilà, il faut penser à eux. Il y a, suivant des régions, on a perdu peut-être 70 à 80%. Ça rappelle le dernier très grand gel historique qui était 91. Voilà. Et surtout, ça a attrapé le pourtour de la Méditerranée, ce qui n'existait avant, malheureusement, jamais.
Ça concerne la viticulture, mais également l'arboriculture, évidemment.
Bien évidemment, bien évidemment. Alors, quand j'ai pensé à cette chronique, le gel n'était pas encore dans ma tête, mais j'en ai eu un écho, puisque j'ai appelé une fille assez extraordinaire dont je vais vous parler. Et ça m'a fait penser qu'il y a des pousses aussi chez les humains dans la viticulture, des gens qui commencent, qui débutent, qui plantent des vignes, parce que ça c'est relativement... Avant, on achetait des vignes, ou des vignes plantées, et puis des vieilles vignes. Non, on se rend compte aujourd'hui que planter, c'est mieux, parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs ces 50 dernières années en plantant la vigne. Alors un jeune vigneron qui s'installe, il plante des vignes, et la vigne qui a été plantée cette année, elle est brûlée complètement, puisque c'était les plus fragiles. Donc, il y a quelques mois, je pensais à vous parler de Katrina Sadé. Alors Katrina Sadé, c'est une vigneronne de Beaune. Je l'ai rencontrée autour d'une table. Alors une table un peu spéciale, ça s'appelle une table de tri. C'est la table de tri qu'il y a dans le chai au moment des vendanges où on trie le mauvais du bon raisin. Et j'étais en Bourgogne au château de Bligny, on triait du pinot noir. Et on parle, et je ne connaissais pas cette personne, mais qui parle avec un joli accent allemand, et on parle cuisine. Et je lui demande sa connaissance de cuisine. Elle m'explique qu'elle a fait une formation de cuisine très poussée en Allemagne. Après, vous savez, les formations professionnelles en Allemagne, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France. Après le bac, on peut faire un très très bon niveau. Elle est embauchée dans un étoilé Michelin. Une étoile, deux étoiles. On est à Sylt, c'est une île en mer du Nord, c'est un peu le Saint-Tropez de l'Allemagne. Elle s'y ennuie un peu vite, elle fait 2 ans, donc c'est classe, vraiment, chef de parti. Elle a envie de changer d'esprit. Alors elle reprend ses études. Elle va faire une licence de sciences de l'alimentation. Et puis elle s'y ennuie encore beaucoup. Elle dit, elle va s'aérer en allant faire les vendanges. Elle commence à faire les vendanges en Allemagne. Puis bien évidemment, la France l'intéresse beaucoup. Et elle rencontre en Bourgogne vraiment sa passion, le chardonnay et le pinot noir. Elle est embauchée comme ouvrière agricole, chef de culture, attention, à la Romée Conti, au domaine Marquis d'Angerville, chez Cécile Tremblay. Là, je suis en train de vous citer 3 parmi des méga stars de la Bourgogne. Mais est-ce qui l'intéresse, c'est pas prendre la place de ces gens-là, c'est simplement travailler avec la vigne. Elle se sent bien dans la vigne. Mais elle est un peu confrontée à l'ego de tous ces vignerons qui ont beaucoup de mal à partager un petit peu leur savoir-faire. C'est un peu gênant d'ailleurs pour ces vignobles-là, parce qu'ils perdent beaucoup de talent. Elle avait envie de continuer à travailler auprès de ces gens-là, mais elle est forcée de... on va dire, partir sur son propre chemin. Alors, elle continue à se former. Elle fait un master Supagro à Montpellier. Elle jumelle ça avec des études en Allemagne, et par autre parenthèse, en Allemagne, dans les universités d'œnologie, on apprend la biodynamie et on ne diabolise pas la biodynamie, c'est pour ça. Et elle revient.
Elle fait un stage en Afrique du Sud. Elle prend son vignoble. Elle rencontre son mari Dijonais, qui l'épaule dans son lancement. Et pendant 8 ans, elle construit son domaine. Je vous ai amené son premier vin. Son premier vin, c'est un simple aligoté.
Refaites passer la bouteille, Charles.
Oui, voilà. C'est un simple aligoté.
C'est salin, c'est salivant.
C'est délicieux. C'est son premier millésime. C'est 2019. Elle fait aussi un peu des rouges coteaux bourguignons. Elle fait aussi des beaunes. C'est travaillé sainement. Jusqu'à la mise en bouteille, il n'y a pas de soufre. C'est très drôle parce que l'aligoté, vous savez, c'est le vilain petit canard souvent de la Bourgogne. On parle toujours du chardonnay. Et c'est un cépage qui aujourd'hui prend beaucoup, beaucoup de place parce que on découvre la Bourgogne aujourd'hui par l'aligoté. Et ça n'a plus rien à voir avec l'aligoté qu'on mettait dans les bouillons de cuisine. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà. quand je suis quand mon nez au-dessus de ce verre, ben voilà. La mer est là, j'ai des très très légers amers qu'on a dans certains crustacés.
C'est un peu métallique.
Et on a une dimension un peu extraordinaire. Agrumes, alors, ce domaine s'appelle Les Aurées. Voilà, c'est sa première cuvée, c'est tout nouveau sur le marché. Vous trouverez sur le site de l'émission les coordonnées de son distributeur. C'est des petites productions. Souvenez-vous qu'il y a eu une très bonne émission la semaine dernière sur le prix du vin. Elle était très importante cette émission parce qu'elle vous expliquera pourquoi une femme qui travaille seule avec autant de passion est forcée de vendre son vin un petit peu cher. Vous le trouverez chez les cavistes à moins de 30 €. Mais je vous assure que l'expérience en vaut la chandelle.
Le destin de Katharina Saad, avec ce double handicap d'être une femme et une Allemande dans un milieu assez conservateur, on va dire, la Bourgogne, ben chapeau, hein, parce qu'alors le résultat dans l'assiette, c'est vivant, vibrant et extraordinaire.
L'alliance Omar Agrumes avec Laurent Delmas, c'est sublime.
Bien, là, hein.
C'est un métier.
Travail de femme.
Merci cher Antoine pour ce parfait éclairage. Merci beaucoup. Alors, évidemment, il nous reste une poignée de minutes pour évoquer les autres crustacés. Il n'y a pas que le homard, ce roi des mers, on va dire, mais également d'autres crustacés, à commencer par, allez, c'est vous qui choisissez, Charles.
La reine, la langouste, alors qui fait son retour en Bretagne après avoir été décimée dans les années 60.
C'est vrai qu'on associe beaucoup la langouste soit aux îles tropicales, soit à la Méditerranée. Hein.
Mais en fait, elle est présente. Et donc, je pense que dans quelques années, on pourra faire une émission spéciale langouste parce qu'elle va revenir en masse.
La langoustine, sa petite cousine.
Langoustine, alors on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle est majoritairement pêchée au chalut. Et donc, nous, chez Poiscaille, pas de chalut parce que ça abîme trop les fonds. Un appel aux pêcheurs à mettre un petit box dans le golfe de Gascogne pour pêcher que la langoustine au casier. Nos amis écossais le font. Donc, on peut en trouver pêché au casier, des grosses langoustines, super belles, c'est bon, mais nous
savon
on s'en prive.
Savon à homard.
Hein. Savon à homard, je dirais plutôt le homard ou la langoustine pour arrêter de manger des langoustines et manger plutôt des produits pêchés au casier.
Il y a Bertrand qui veut qu'on parle des moussettes.
Ah, les fameuses moussettes. D'abord l'araignée quand même, l'araignée.
Eh ben, moussette-araignée, presque même combat.
Crustacé le moins cher, fragile par contre, donc on ne le trouve pas souvent sur les étals, donc dès que vous allez à la côte, vous cherchez des araignées, il y en a sur toutes les côtes, il y en a partout. Il y a même des endroits où il faudrait les manger.
Pour le coup.
Il y en a trop parfois, les pêcheurs abîment leur filet dans les araignées, donc allez-y sur l'araignée dès que vous êtes à la côte. Si vous la trouvez cuite un peu loin de la mer, allez-y aussi, il faut manger de l'araignée.
Excellent,
c'est super fin.
Et la moussette, c'est sa version alors, juvénile.
La petite araignée qui est pas encore mature et qui a priori est plus fine, plus douce, plus facile à manger. Certains disent qu'elle est un peu plus sucrée. Alors ça, c'est vraiment les amateurs locaux qui en mangent des kilos. Voilà. Comme vous, François Régis,
personnellement,
comme
la moussette du Cotentin, où elle se pêche également un peu en Bretagne. C'est une araignée d'abord qui ne coûte pas cher. Les pattes sont très faciles à casser. Elles sont même encore un peu souples et c'est des véritables sucres d'orge de la mer. D'une suavité, une concentration en sucre. Absolument extraordinaire.
Le tourteau?
Eh oui.
Le tourteau quand même. Alors les stocks sont un peu mal en point, donc il y a des grosses pêcheries dans le nord de l'Europe qui les attaquent fort au casier et donc il faut quand même y aller mollo. Et on les stocke aussi longtemps, souvent en vivier, donc du tourteau local, acheté à votre pêcheur. Le choix entre mâle ou femelle pour araignée ou tourteau.
Ouais.
Donc la femelle aura des chances d'avoir des œufs dedans, donc le fameux corail. Certains adorent et les mâles auront surtout des grosses pinces. Donc si vous préférez manger les pinces, moi je préfère manger l'intérieur et surtout ne jetez pas le corps de ces crustacés après avoir mangé les pinces. On voit trop de gens.
Et on évite de n'acheter que des pinces.
Voilà, on n'achète surtout pas que des pinces. Que des pinces, c'est des pinces qui ont été arrachées aux bébêtes à bord. Ils ont été soit jetés par-dessus bord vivant, soit éclatés au maillet pour ne pas être sortis des filets parce que c'est embêtant à démailler.
Oh là là, ouais. Donc on l'achète entier, l'animal.
On achète entier, vivant ou cuit.
Une poignée de secondes, Manon, mais on aura la recette en ligne sur franceinter.fr à la page
Où vous allez exister.
Votre création au tourteau.
Oui, alors on récupère ce qu'il y a donc dans à l'intérieur du corps du tourteau dont on sait pas vraiment souvent quoi faire.
C'est vrai.
Qui en fait moi je trouve a un goût vraiment intéressant, qui a un goût d'amande. Et en fait je me dis mais c'est marrant, ça a un goût d'amande, avec quoi je pourrais l'associer? Et je l'ai associé avec de l'amande. Je l'ai mixé avec de la poudre d'amande, un peu d'eau. Et ça nous fait une crème d'amande qui est très on va dire gourmande, voilà. Légère en même temps, et je m'en sers comme vous feriez avec une mayonnaise à lier la chair de tourteau.
C'est splendide, ça c'est vraiment une création intéressante pour ne rien gaspiller du tourteau. Un grand merci Manon, merci beaucoup Charles. La semaine prochaine on déguste les saveurs du Ramadan avec l'animateur et restaurateur Abdel Alaoui. Elvira Masson, Zazie Tavissian seront dans les fauteuils des chroniqueuses. À dimanche prochain si vous avez encore faim.